Chapitre 27. Eddie et Susanna levaient les yeux sur le vaste berceau de Blaine quand les cieux s'ouvrirent, libérant une pluie torrentielle.
« Quel bâtiment ! Sauf qu'on a oublié de prévoir les accès réservés aux handicapés !»
brailla Eddie, haussant la voix pour être entendu par-dessus la pluie et le tonnerre.
« Aucune importance !» dit Susanna,
avec impatience, glissant hors du fauteuil.
« Montons-nous mettre à l'abri du déluge !»
Eddie observa sceptique l'inclinaison des marches. Les contre-marches étaient peu élevées, mais il y en avait une tapée.
« T'es sûr, Suzy ? Je vais te coiffer au poteau, homme blanc !»
Se contorsionnant, la jeune femme se hissa avec une aisance singulière, se servant de ses mains, de ses avant-bras musclés et des moignons de ses jambes. Et elle faillit le battre. Eddie devait se coltiner la quincaillerie, ce qui le ralentissait. Tous deux étaient hors d'haleine quand ils atteignirent le haut des marches, leurs vêtements mouillés exhalant des nuages de vapeur. Eddie saisit Susanna aux aisselles, la souleva dans les airs et la tint les mains nouées au creux de ses reins au lieu de la remettre dans son fauteuil ainsi qu'il avait eu l'intention de le faire. Il se sentait excité et à demi fou sans savoir pourquoi.
« Oh, oh, pousse !» pensa-t-il. « Vous êtes tous deux encore en vie, c'est ce qui a gonflé tes glandes à bloc et les a rendues prêtes à une partie de jambes en l'air. »
Susanna passa la langue sur sa lèvre enflée et enroula ses doigts robustes dans les cheveux d'Eddie. Et tira. Ça faisait mal, et en même temps, c'était formidable.
« Je t'ai dit que je te battrais à plate couture, homme blanc, » dit-elle d'une voix basse et rauque.
« C'est moi qui ai gagné, d'une demi-marche. »
Eddie s'efforça de maîtriser son essoufflement, en vain.
« Peut-être. » Mais ça t'a mis à plat.
La main gauche de Susanna quitta les cheveux d'Eddie, descendit le long de son corps et exerça une légère pression. Un sourire rayonna dans les yeux de la jeune femme.
Ah, voilà quelque chose qui n'est pas à plat.
Allons, pas de folie, c'est pas le moment.
Susanna ne le contredit pas, mais pressa encore son sexe avant de reposer la main sur son épaule. Eddie éprouva un pincement de regret. Il remit Susanna dans son fauteuil et la poussa à vive allure sur les vastes dalles jusqu'au couvert du toit. Il crut lire un regret égal au sien dans les yeux de sa compagne. Lorsqu'ils furent à l'abri du déluge, Eddie s'arrêta et tous deux se retournèrent. La place du berceau, la rue de la Tortue et toute la cité au-delà disparaissaient rapidement dans un mouvant rideau de grisaille. Eddie n'éprouvait pas la moindre nostalgie. Lude n'avait pas gagné sa place dans son album mental des bons souvenirs.
« Regarde !» murmura Susanna.
Elle désignait une gouttière proche qui se terminait en une grosse tête de poisson écailleuse, cousine germaine apparemment des gargouilles dragons qui ornaient les angles du berceau. L'eau coulait de sa bouche en un torrent d'argent.
« C'est les grandes eaux ?» « Et comment ? Il va pleuvoir jusqu'à plus soif, puis encore un chouïa, juste histoire d'embêter le monde. Peut-être une semaine, peut-être un mois. C'est pas ça qui nous gênera des masses si Blaine n'aime décidément pas notre look et nous passe à la poêle à frire. Tire une balle pour que Roland sache que nous sommes arrivés à bon port, trésor. Puis nous irons jeter un coup d'œil, histoire de voir ce qu'il y a à voir. »
Eddie pointa le rugger vers le ciel gris, appuya sur la détente, et tira le coup que Roland entendit à 2 kilomètres au plus, tandis qu'il pistait Jake et Gasher à travers le dédale truffé de traquenards. Eddie resta planté à la même place quelques instants encore, essayant de se persuader que les choses allaient peut-être bien tourner, que son cœur se trompait quand il s'obstinait à affirmer qu'il ne reverrait jamais plus le pistolero et le garçon. Enfin, il remit le camp de sûreté, glissa l'arme dans la ceinture de son pantalon et revint vers Susanna. Il éloigna son fauteuil des marches et le fit rouler le long d'une galerie flanquée de colonnes qui menait plus avant au cœur du bâtiment. Susanna ouvrit la culasse du revolver de Roland et le rechargea. Sous le toit, la pluie avait un bruit secret, sépulcral, et même le fracas du tonnerre était assourdi. Les colonnes qui soutenaient la structure mesuraient au moins 3 mètres de diamètre, et leur faîte se perdait dans les ténèbres. Du sein des ombres, Eddie entendit la conversation roucoulante de pigeons. Puis, ils virent un panneau suspendu à d'épaisses chaînes d'argent chromé se balancer hors de l'obscurité. « North Central Positronics vous souhaite la bienvenue au berceau de Lude. Trajet sud-est, Blaine. Trajet nord-ouest, Patricia. »
« À présent, nous connaissons le nom du train tombé dans la Sainte, » dit Eddie.
« Patricia. Il y a erreur sur la couleur, cela dit. Le rose est censé être pour les filles et le bleu pour les garçons, pas l'inverse. »«
Peut-être sont-ils tous les deux bleus ?»«
Non, Blaine et Rose. »«
D'où le sais-tu ?»
Eddie eut l'air gêné.
« Je l'ignore, mais je le sais. »
Ils suivirent la flèche indiquant le quai de Blaine et pénétrèrent dans ce qui aurait dû être un hall spacieux. Si Eddie ne possédait pas la faculté de Susanna de voir le passé par flash très net, son imagination peupla cependant le vaste espace à colonnes d'une foule en train de se hâter. Il entendit des talons claquer et des voix murmurer, vit des embrassades de bienvenue et d'adieu. Et par-dessus tout cela, les haut-parleurs psalmodiant des informations sur une douzaine de destinations différentes. Patricia va partir pour les baronnies du Nord-Ouest. Le passager Killington est prié de se présenter au guichet d'information au rez-de-chaussée. Blaine vient d'arriver au quai numéro 2. Il ne restait plus désormais que les pigeons. Eddie frissonna.
« Regarde ces têtes, » murmura Susanna. « Je ne sais pas si elle te donne la chair de poule, mais à moi si. » Elle désignait un point sur sa droite. Tout en haut du mur, une théorie de têtes sculptées semblait se pousser hors du marbre, observant les intrus au sein des ténèbres, des hommes austères aux durs visages de bourreaux, heureux d'accomplir leurs tâches.
Certaines étaient tombées et gisaient parmi les éclats de granit à une vingtaine de mètres au-dessous de leur père. Celles qui demeuraient en place étaient tissées d'un réseau arachnéen de fêlures et couvertes de fientes de pigeons.
« Ça devait être des membres de la Cour suprême ou quelque chose comme ça ?» dit Eddie, examinant avec malaise toutes ses lèvres minces et tous ses yeux fendus et vides. « Seuls des juges peuvent avoir un air à la fois aussi élégant et aussi fâché. » Tu causes à un mec qui sait. Il n'y en a pas un, apparemment, qui aurait donné une béquille à un crabat firme.
Un amas d'images brisées sur lesquelles frappe le soleil. L'arbre mort n'offre aucun abri, murmura Susanna.
À ces mots, Eddie sentit ses bras, sa poitrine et ses jambes se hérisser de chair de poule. Qu'est-ce que c'est, Susie ? Les vers d'un poète qui a dû voir Lude dans ses rêves. Viens, Eddie, oublie-les. Plus facile à dire qu'à faire.
Mais il se remit à pousser le fauteuil. Devant eux, une immense barrière grillagée, telle la barbacane d'un château fort, surgit des ténèbres. Et au-delà, ils aperçurent enfin Blaine le mono. Le train était rose, ainsi que l'avait prédit Eddie, d'une délicate nuance qui s'harmonisait aux veines courant à travers les piliers de marbre. Blaine flottait au-dessus du quai, balle de revolver lisse et aérodynamique davantage chair que métal. Sa surface n'était brisée que par une vitre triangulaire pourvue d'un essuie-glace de taille imposante. Eddie devina qu'une seconde vitre triangulaire, pourvue elle aussi d'un essuie-glace de taille imposante, ornait l'autre côté du nez du mono, de telle sorte que, vu de face, Blaine devait donner l'impression d'avoir un visage, tout comme Charlie le chouchou. Les essuie-glaces devaient ressembler à des paupières sournoisement tombantes. Une lumière blanche venant de la fente sud-est du berceau se projetait sur Blaine en un long rectangle déformé. Eddie trouva que le corps du train était pareil au dos bosselé de quelques baleines fabuleuses. Une baleine extrêmement silencieuse. « Ouh !» souffla-t-il. « Nous l'avons trouvé. »« Oui, Blaine le mono. »« Il est mort, tu crois? Il en a l'air.
Non. Il dort peut-être, mais il est loin d'être mort.
T'es sûr? Étais-tu sûr qu'il serait rose?
Ce n'était pas une question. Eddie s'abstint donc d'y répondre. Susanna tourna vers lui un visage las et effrayé.
Il dort. Et tu sais quoi? J'ai une frousse bleue de le réveiller.
Eh bien, dans ce cas, attendons les autres. Elle secoua la tête.
Il vaut mieux tâcher d'être prêt pour quand ils arriveront, parce que j'ai dans l'idée qu'ils vont se pointer à la dernière minute. Pousse-moi jusqu'à cette boîte fixée au barreau. On dirait un interphone. Tu la vois?
Il la voyait en effet, et il roula lentement Susanna dans sa direction. La boîte était enchâssée dans le battant d'un portillon fermé qui se trouvait au centre de la barrière saignant le berceau. Les barres verticales de celle-ci étaient apparemment en acier inoxydable. Celles du portillon en fer ornemental, et leurs extrémités s'enfonçaient dans des trous cerclés d'acier creusés dans le sol. Impossible que l'un ou l'autre se faufile entre ces barres, nota Eddie. L'écart entre chacune ne faisait pas plus de 10 centimètres. Même Othé aurait eu du mal à passer. Des pigeons ébouriffaient leurs plumes et roucoulaient au-dessus de leur tête. La roue gauche du fauteuil roulant produisit un grincement monotone.
« Mon royaume pour une burette d'huile !» songea Eddie, mort de trouille.
La dernière fois qu'il avait connu pareille terreur, cela remontait au jour où, à Dutch Hill, Henry et lui avaient observé depuis le trottoir de Reinhall Street le manoir en ruine. Ils n'y étaient pas entrés en ce jour de 1977. Ils avaient tourné le dos à la maison hantée et pris leurs jambes à leur cou. Eddie se rappela s'être juré de ne jamais plus retourner à cet endroit. Promesse qu'il avait tenue, mais voilà qu'aujourd'hui il se retrouvait dans une autre maison hantée, avec le fantôme juste sous son nez.
Blaine le mono, masse rose tout en longueur, dont la vitre l'épiait comme l'œil d'un dangereux animal qui feint de dormir.
Il ne quitte plus sa couche dans le berceau, il a même cessé de parler de ses nombreuses voix et de rire. Hardis a été le dernier à s'approcher de Blaine, et comme Hardis ne savait répondre, Blaine l'a tué avec du feu bleu.
S'il m'adresse la parole, pensa Eddie, probable que je vais devenir ma boule.
Le vent dehors soufflait en rafale, et une fine brumisation de pluie s'engouffrait par la grande fente de sortie taillée dans le flanc de l'édifice. Eddie la vit gifler la vitre de Blaine, et y formait un réseau de perles. Il frissonna tout d'un coup et regarda autour de lui avec attention.
« On nous observe. Je le sens. »«
Cela ne m'étonnerait pas. Rapproche-moi du portillon, Eddie. J'aimerais jeter un coup d'œil à cette boîte de plus près. »«
Ok. Mais n'y touche pas. Si elle est électrifiée... »«
Si Blaine veut nous faire frire, il le fera. » rétorqua Susanna, considérant le dos de Blaine à travers les barres. « Tu le sais, et moi aussi. »
Et Eddie ne pit pas mot, car il savait que c'était la vérité. La boîte ressemblait à un hybride d'interphone et de système antivol. Un micro y était incorporé dans la partie supérieure avec ce qui semblait être une touche « parler, écouter » à côté. Au-dessus, des chiffres étaient disposés en losange. Sous le losange, il y avait deux autres touches sur lesquelles étaient gravés deux mots en haut parlés, « commande » et « entrée ». Susanna paraissait désorientée et sceptique.
« Qu'est-ce que c'est, à ton avis ? On dirait un gadget de film de science-fiction. »
« Pour sûr, se dit Eddie. » Sans doute Susanna avait-elle vu, à son époque, un ou deux systèmes de sécurité à usage domestique. Somme toute, elle avait vécu parmi les Richards de Manhattan, même s'ils ne l'avaient pas accepté de gaieté de cœur. Mais il y avait un monde de différence entre le matos électronique dans son camp de 1963 et le sien, qui était 1987.
Nous n'avons guère parlé non plus des différences, songea-t-il. Je me demande quelle serait sa réaction si je lui disais que Ronald Reagan était le président des États-Unis lorsque Rowland m'a kidnappé.
Elle me traiterait sûrement de barge.
« C'est un système de sécurité, » répondit-il.
Puis, bien que ses nerfs et son instinct lui hurlassent de ne pas le faire, il s'obligea à tendre la main droite et à appuyer sur la touche « Parler, écouter ». Il n'y eut pas de craquement électrique, aucun feu mortel ne remonta le long de son bras, aucun signe que l'appareil fût même toujours branché. « Peut-être que Blaine est mort, se dit-il. Peut-être qu'il est mort, en fin de compte. Mais au fond, il n'y croyait pas. « Hello ?» Dans sa tête, il vit le malheureux Hardis beuglant tandis qu'il se faisait atomiser par le feu bleu dansant partout sur sa figure et son corps, lui faisant fondre les yeux et flamber la tignasse. « Hello ? Blaine ? Y a quelqu'un ?» Il ôta le doigt de la touche et attendit, raidi par la tension. La main de Susanna, menue et froide, se glissa dans la sienne. Toujours pas de réponse. Eddie, plus que jamais à contre-cœur, réappuya. Blaine ? Il relâcha la touche, attendit. Aucune réponse ne venant, il se sentit gagné par le vertige, comme c'était souvent le cas dans ces moments de stress et de peur. Quand ce vertige le prenait, évaluer les risques devenait secondaire, tout devenait secondaire. Il avait connu ça quand il avait fait perdre contenance à un machin jaune, le contact de Balassar à Nassau, et c'était pareil à présent. Et si Rolland l'avait vu à l'instant où cette extravagante impatience s'emparait de lui, il eût discerné plus qu'une simple ressemblance entre Eddie et Cuthbert. Il eût juré qu'Eddie était Cuthbert. Il écrasa la touche du pouce et se mit à brailler dans le micro, adoptant un accent british de la haute, et complètement bidon.
« Hello, Blaine ! Salut, vieux pote ! C'est Robin Leach, animateur de Style de vie des Richards qui n'ont rien dans le citron, qui vous annonce que vous avez gagné 6 milliards de dollars et une Ford Escort lors du grand tirage au sort organisé par le Reader's Digest. »
Des pigeons prirent leur envol au-dessus d'eux dans de douces explosions d'ailes effarouchées. Susanna chercha sa respiration. Elle avait l'expression effrayée d'une femme qui vient d'entendre son mari blasphémer dans une cathédrale.
« Eddie, ça suffit ! Ça suffit !»
Mais c'était plus fort que lui. Eddie souriait, cependant que ses yeux brillaient d'un mélange de peur, d'hystérie et de colère dépité.
« Vous et votre petite amie Monorail Patricia allez passer un mois de luxe dans le touristic Jimtown. Vous n'y boirez que le vin le meilleur et ne croquerez que les plus belles vierges. Vous... Chut, chut. »
Eddie ne pipa mot et regarda Susanna. Certain que c'était elle qui lui avait intimé l'ordre de se taire, et ce non seulement parce qu'elle avait déjà fait une tentative dans ce sens, mais parce qu'elle était l'unique autre personne présente, il savait pourtant qu'il se trompait. Il y avait eu une autre voix, la voix d'un enfant très jeune et fort apeuré. « Susie, c'est toi qui... » Susanna secoua la tête et leva la main. Elle désigna du doigt la boîte et Eddie vit la touche marquée « Commande ». Brillait d'une très faible lueur rose, la même couleur que celle du mono dormant dans sa couche de l'autre côté de la barrière.
Chut, ne le réveillez pas,
gémit la voix enfantine sortant du micro telle une douce brise vespérale. Que commença Eddie, puis il secoua la tête, tendit la main vers la touche parler, écouter et appuya à peine dessus. Quand il parla, ce ne fut plus le claironnement façon Robin Leach, mais le chuchotement d'un conspirateur.
« Qui êtes-vous ? »
Il ôta son doigt. Susanna et lui se regardèrent avec les yeux écarquillés d'enfants qui viennent de comprendre tout à coup qu'ils partagent la maison avec un adulte dangereux, peut-être un psychopathe. Comment le savent-ils ? Eh bien, parce qu'un copain de leur âge le leur a dit, qui a vécu avec le psychopathe en question un long moment, se cachant dans les trous de souris et montrant le bout du nez uniquement quand il savait l'adulte endormi. Un enfant effrayé et invisible. Il n'y eut pas de réponse. Eddy laissa s'égrener les secondes. Chacune semblait assez longue pour terminer la lecture d'un roman fleuve. Il tendait de nouveau la main vers la touche quand la faible lueur rose réapparut.
« Je m'appelle Petit Blaine, »
chuchota la voix d'enfant.
« Je suis celui qu'il ne voit pas, celui qu'il a oublié, celui qu'il croit avoir abandonné dans les chambres de la ruine et les corridors de la mort. »
Eddy réappuya sur la touche. Sa main tremblait de façon incontrôlée. Il entendit le même tremblement dans sa voix.
« Qui ? Qui est celui qui ne voit pas ? Est-ce l'ours ?
Non, pas l'ours, pas lui. Chardic gisait mort dans la forêt à 10 kilomètres derrière eux. Le monde avait changé depuis lors. Eddy se rappela ses sentiments quand il avait posé l'oreille contre cette étrange porte dans la clairière où l'ours avait vécu sa semi-existence violente, cette porte avec ses terribles rayures jaunes et noires. Elle était toute une pièce, se rendit-il compte à présent. Une partie de quelque horrible tout en plein délabrement, une toile en loques avec la tour sombre en son centre, telle une énigmatique araignée de pierre. L'entre-deux mondes tout entier s'était métamorphosé en une immense maison hantée, ces étranges derniers jours. L'entre-deux mondes tout entier était devenu les Drawers. L'entre-deux mondes tout entier s'était métamorphosé en une terre perdue, obsédante et possédée. Il vit les lèvres de Susanna former les mots de la véritable réponse avant que la voix de l'interphone n'eût eu le temps de les prononcer. Et ces mots avaient la même évidence que la solution d'une devinette une fois la réponse donnée.
« Grand Blaine !»
murmura la voix immatérielle.
« Grand Blaine est le fantôme dans la machine, dans toutes les machines. »
Susanna avait porté la main à sa gorge et l'étreignait comme si elle avait l'intention de s'étrangler. Ses yeux, quoique emplis de terreur, n'étaient ni vitreux ni stupéfaits. Il rayonnait d'intelligence. Peut-être avait-elle connu une voix semblable dans son propre camp, le camp où le tout qui formait Susanna avait été court-circuité par les personnalités rivales de Detta et d'Odetta. La voix enfantine avait surpris Susanna autant qu'Eddy, mais les yeux emplis d'angoisse de la jeune femme disaient que le phénomène à l'œuvre ne lui était pas étranger. Susanna connaissait tout sur la folie de la dualité. Eddy, nous devons nous en aller. Sa terreur transforma ses paroles en une bouillie dénuée de ponctuation. Eddy entendait l'air siffler dans sa trachée artère, tel un vent froid autour d'une cheminée. Eddy, partons.
Trop tard,
dit la minuscule voix plaintive.
Il est réveillé. Grand Blaine est réveillé. Il sait que vous êtes là. Il arrive.
Soudain, des lumières, des arcs au sodium orange vif, s'allumèrent deux par deux au-dessus de leur tête, baignant la vastitude à piliers du berceau d'un éclat dur qui bannissait toute ombre. Des centaines de piliers plongèrent et fondirent en piqué en un vol sans but, effrayés, propulsés de leur enchevêtrement de nid au perché.
« Attendez !»
cria Eddy.
« Attendez, s'il vous plaît !»
Dans son émoi, il en oublia d'appuyer sur la touche, mais cela ne fit aucune différence. Petit Blaine répondit quand même.
« Non, je ne puis le laisser m'attraper. Je ne peux pas non plus le laisser me tuer. »
La lumière de l'interphone s'éteignit de nouveau, mais pour un court instant. Cette fois, les deux touches « commande » et « entrée » s'allumèrent. Et elles se colorèrent non pas en rose, mais dans le rouge foncé sanglant d'une forge de maréchal Ferrand.
Qui êtes-vous ?
Rugit une voix qui ne venait pas seulement de l'interphone, mais aussi de tous les haut-parleurs de la cité encore en marche. Les corps pourrissants suspendus au poteau tremblaient aux vibrations de ce puissant organe. Il semblait que les morts eux-mêmes allaient fuir Blaine s'ils le pouvaient. Susanna se ratatina au fond de son fauteuil, les paumes plaquées sur ses oreilles, le visage allongé de terreur, la bouche déformée en un cri silencieux. Eddie se sentit lui-même régresser vers les terreurs fantastiques, hallucinatoires de ses 11 ans. Était-ce cette voix-là qu'il avait redoutée quand Henry et lui se tenaient à l'extérieur du manoir? Qu'il avait peut-être même attendu? Il ne savait, mais il savait ce que Jack, le personnage d'un vieux conte, avait dû éprouver en se rendant compte qu'il avait grimpé une fois de trop à la tige du haricot magique à réveiller le géant.
« Comment osez-vous troubler mon sommeil ? Dites-le-moi à la minute où vous mourrez incontinent !»
Eddie aurait pu se figer sur place, laissant Blaine, grand Blaine, leur faire ce qu'il avait fait, quoi que ce soit, à Hardis, ou un truc encore pire. Peut-être qu'il aurait dû se figer sur place, piégé dans ce terrier de lapin de conte d'épouvante. Ce fut le souvenir de la petite voix qui avait parlé la première qui lui insuffla le courage de bouger. Une voix d'enfant terrifié, mais terrifié ou pas, le gosse avait essayé de les aider. « Aide-toi, le ciel t'aidera, » pensa-t-il. « Tu l'as réveillé. Négocie avec lui pour l'amour de Dieu !» Eddie tendit la main et enfonça de nouveau la touche.
Je m'appelle Eddie Dean. La femme qui m'accompagne est mon épouse, Susanna. Nous,
il regarda Susanna qui hocha la tête et lui intima par force geste frénétique de poursuivre.
Nous sommes engagés dans une quête. Nous cherchons la tour sombre qui se dresse sur le sentier du rayon. Nous avons 2 autres compagnons, Roland de Gilead et Jake de New York. Nous sommes tous 2 également originaires de New York. Si vous êtes...
Eddie s'interrompit un instant, ravalant les mots Grand Blaine. En les prononçant, il risquait de faire comprendre à l'intelligence qui s'abritait derrière la voix qu'ils en avaient entendu une autre. Un fantôme dans le fantôme, pour ainsi dire. Des 2 mains, Susanna le pressa de continuer.
Si vous êtes Blaine le Mono, eh bien, nous souhaitons que vous nous preniez à votre bord.
Il relâcha la touche. Il n'y eut pas de réponse pendant ce qui parut une éternité, hormis le volettement agité des pigeons dérangés. Quand Blaine reprit enfin la parole, sa voix ne parvint que de la boîte à micro incorporée fixée dans le portillon. Elle avait un accent quasi humain.
« Ne poussez pas ma patience à bout. Toutes les portes qui mènent à ce « où » sont closes. Gilead n'existe plus, et ceux qu'on appelait des pistoleros sont tous morts. À présent, répondez à ma question. Qui êtes-vous ? C'est votre dernière chance. »
Il y eut un grésillement. Un ray de lumière d'un bleu blanc brillant tomba du plafond et fora un trou de la taille d'une balle de golf dans le sol de marbre à moins 1,50 m à la gauche du fauteuil de Susanna. De la fumée qui sentait l'odeur que laisse la foudre s'en éleva en volute paresseuse. Susanna et Eddie se regardèrent un moment, muets de terreur, puis Eddie se rua sur le boîtier et écrasa la touche.
« Vous faites erreur. Nous venons bien de New York. Nous sommes passés par les portes sur la plage il y a de cela seulement quelques semaines. »« C'est vrai !» s'écrièrent Susanna. « Je le jure !»
Silence. De l'autre côté de la longue barrière, le dos rose de Blaine s'arrondissait doucement. La vitre à l'avant semblait les considérer tel un morne œil de verre. L'essuie-glace aurait pu être une paupière clignant sournoisement à demi.
« Prouvez-le !»
dit enfin Blaine.
« Bon sang, et comment ?» demanda Eddie à Susanna. « Je ne sais pas !»
Eddie enfonça de nouveau la touche.
« La statue de la liberté, ça vous dit quelque chose ?»«
Continuez !»
La voix, à présent, avait l'air songeuse.
L'Empire State Building, Wall Street, le World Trade Center, Coney Island, le Radio City Music Hall, l'East...
Blaine lui coupa le sifflet. Et prodige, la voix qui sortit du micro fut celle traînante de John Wayne.
« Ok, pèlerin, je te crois. »
Eddie et Susanna se jetèrent un coup d'œil, cette fois d'embarras et de soulagement mêlés. Mais quand Blaine reprit la parole, sa voix avait repris son ton froid et dénué d'émotion.
« Pose-moi une question, Eddie Dean de New York, et mieux vaut qu'elle soit bonne. »
Il y eut une pause, puis Blaine ajouta
« Parce que sinon, ta femme et toi allez mourir, quel que soit le lieu d'où vous venez. »
Susanna porta son regard du boîtier à Eddie.
« De quoi parle-t-il ? »
siffla-t-elle. Eddie secoua la tête.
« Je n'en ai pas la moindre idée.